Bienvenue dans Bande Sonore, le podcast du web documentaire Bande à part, une série de portraits audio de celles et ceux qui décident de vivre autrement, habiter, apprendre, se définir autrement, autrement mais ensemble. Dans cet épisode, moi, Quentin, suis parti à la rencontre d'Eliott. Eliott redéfinit le genre, voici son histoire.
Salut, je suis Eliott des Adelphes, drag king et drag fuck, danseur de cœur et aujourd'hui je fais Bande à part. Quand on parle de drag king, on entend souvent le raccourci de « Tu vois ce que c'est, drag queen ?» Bah, c'est un peu pareil, mais en king. En réalité, on n'a pas la même histoire. Le drag king, c'est l'idée de performer une forme de masculinité. Pour moi, le drag, c'est très personnel. Ça me permet de vraiment dévoiler certaines choses que j'ai en moi et que j'ai plaisir à façonner. Ça m'offre une assurance que je n'aurais pas à l'état civil. Depuis quelques années, il y a une vraie montée du drag king, et tant mieux. Mais l'art du drag king reste quand même moins visible. C'est peut-être parce que la plupart des drag kings sont des femmes cisgenres, donc qui sont en accord avec leur genre, qui leur a été assigné à la naissance, ou des personnes transgenres, donc des personnes à qui on donne peu ou pas de place en général. Malgré tout, cette place, on la prend. La scène drag king est en pleine émergence, de plus en plus de personnes se sentent légitimes. Il y a un effet de groupe. On voit des personnes très timides et d'autres qui ont envie de s'exprimer de manière plus expansive. Après, en termes de perception, y compris dans la communauté ou aux yeux des drag queens, c'est toujours pas ça aujourd'hui, mais ça va mieux. Au début, on était à peine remarqués. Il y a cette façon de nous voir comme un quota qui persiste. Certains pensent aussi que si on a un drag king, il faut une drag queen. Comme ça, on représente la masculinité et la féminité en duo. Maintenant, on peut aller plus loin que ça. Ça permet d'avoir une multitude en fait de représentations. Alors c'est cool aussi de voir que maintenant, il y a aussi des personnes hétéros qui pratiquent. Que du coup, ça ne serve pas forcément que la communauté queer. Moi, j'aime bien l'idée que ça soit beaucoup plus expansif aussi. Alors pour moi, le drag, il est arrivé en 2015-2016. À cette époque-là, je vivais à Paris. J'étais en relation avec une personne qui avait déjà commencé à faire du drag king, qui s'appelle Jade Adelph. L'histoire de notre rencontre était vraiment digne d'une pièce de théâtre. Donc au point qu'on s'est dit que ça méritait de la mettre à l'écrit, puis en image. Et en fait, dans cette histoire, je racontais la façon dont une de mes ex mettait ma masculinité sur un piédestal, ma manière de m'habiller, où elle préférait que je mette des habits plutôt masculins, mes postures, à la manière dont je pouvais être jalouse de certaines personnes. Elle aimait bien ça. Et en même temps, c'est un rôle qui me convenait à l'époque. Ça m'interrogeait aussi sur mon rapport à cette norme de genre. Je me demandais pourquoi elle existait dans cette relation, mais pas en dehors. Du coup, on a voulu mettre ça en image, cette masculinité. La personne avec qui j'étais m'a dit « Vas-y, je vais te drag-kinguer », donc j'ai dit oui. Et puis au moment où je me suis regardé dans le miroir, j'ai été fasciné par ce que je voyais. C'était un reflet qui était ce que moi je voyais dans le fond depuis longtemps. À ce moment-là, il s'est clairement passé quelque chose en moi. Ça a été une véritable prise de conscience. C'était un moment où je suis resté sans voix. J'ai pensé « Ah, t'es là. Ok, t'existes vraiment. T'es pas seulement dans ma tête ». Donc c'était hyper fort, mais ça m'a soulagé en fait. Ça a été une claque. Mais Eliott n'est jamais parti depuis. Je ne l'ai pas lâché. Ça a activé quelque chose. Je me rappelle que je jouais à montrer mes muscles devant le miroir étant enfant. Je traînais déjà beaucoup plus avec les garçons, je jouais au foot. C'était une part de moi que j'étais seule à voir. L'avoir rendu visible, ça n'a fait que confirmer ce que je faisais déjà seule étant enfant dans ma chambre. J'ai eu envie de continuer à explorer tout ce que cette facette de moi pouvait proposer. D'un côté, c'était quelque chose d'hyper intime, mais en même temps, je me suis aperçu que pas mal de monde explorait ça aussi. Au début, on était deux, la personne avec qui je vivais, donc Jay, et moi. On a commencé à skinguer dans notre appart, puis on a eu envie de sortir pour voir l'image qu'on pouvait renvoyer en tant qu'homme. Plutôt en tant que mec gay, d'ailleurs, parce qu'on ne voulait pas ressembler à des mecs cis-hétéros. Alors on a commencé à aller dans des soirées en drague. Alors à ce moment-là, j'avais peur que ma voix me trahisse, donc je ne parlais pas. Je déambulais dans les soirées, je dansais, mais voilà, je disais rien d'autre. Alors j'étais flatté de voir que je pouvais plaire à une certaine gente masculine. Il y avait clairement une part d'ego, mais aussi une part de fantasme. Et après ces explorations, on s'est dit que d'autres personnes voudraient peut-être partager ça, donc on a commencé à organiser des ateliers. On a même fait des sorties dans l'espace public. On voulait se confronter au monde avec des gens qui nous voyaient, qui pouvaient venir nous parler. Donc ensuite, j'ai pas mal bougé. C'est un peu l'histoire de ma vie. Je change de ville à chaque fois que je change d'histoire d'amour. Dès que j'arrivais dans une nouvelle ville, on proposait des ateliers de drag king. Alors au début, je viens de Tours, puis je suis partie à Nantes, puis après à Bordeaux, puis après à Paris, puis après à Munich, puis de nouveau encore à Bordeaux, et puis là je suis arrivée à Toulouse. Donc je connaissais personne. Donc je suis allée en soirée dans un squat, et puis j'ai vu quelqu'un proposer des ateliers de drag king. Donc je trouvais ça génial que des personnes soient motivées pour organiser ça, donc j'y suis allée, puis c'était la première fois que j'y allais en tant que participante. Je trouvais ça intéressant de voir comment ces personnes abordaient le drag king. Il y a une histoire commune, mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi ces parcours personnels, les points communs et les différences de chacun chacune. Donc c'est lors de ce premier atelier toulousain que j'ai rencontré un autre artiste drag king, Livio Belluggio, dit Liv maintenant. On a eu envie de continuer à travailler pour nourrir cet univers. Et puis en 2018, on nous a proposé de participer à Une Girls Don't Cry. Donc c'est un peu la première fois qu'il y avait un spectacle drag king à Toulouse. Donc quand je vois tout le chemin parcouru, je suis hyper fière de voir que je me suis fait confiance. Je me suis pas pressée pour monter sur scène malgré l'envie. J'ai pris le temps de bien connaître cette partie de moi, de voir ce vers quoi je voulais aller. Tout s'est fait très naturellement et puis j'ai eu la chance d'être entourée dans l'univers drag. D'ailleurs, mon drag évolue avec moi. Vu que ça bouge à l'intérieur de moi, ça bouge aussi dans mon drag. Donc j'ai commencé avec le drag king, mais le drag fuck est vite arrivé. Je me considère pas comme femme ni comme homme. Dans mon drag, je me suis aussi comme ça. Je ne veux pas performer un seul genre parce que je n'ai pas qu'une seule identité de genre. Avec le drag fuck, l'idée c'est justement de faire un fuck au principe qu'il faut être soit masculin, soit féminin. Alors aujourd'hui, je vis du drag. Avant le confinement, je commençais à vouloir monter sur scène, mais du coup, c'était pas possible. Alors j'ai pu reprendre et là, j'ai vraiment lâché les chiens. Donc avant ça, j'ai eu plusieurs boulots, j'ai bossé derrière un bar, puis j'ai été aide à domicile. Mais j'ai vite vu qu'il y avait un équilibre qui se perdait. Donc je ne pouvais plus en fait donner autant d'énergie dans le travail et dans mes performances. Et assez vite, j'ai choisi de ne plus être aide à domicile. Moi, j'aime beaucoup de choses sur scène. Par exemple, j'adore la musique depuis que je suis enfant, donc j'ai très vite eu envie de mixer. Et puis j'organise des événements avec la Madone. Soit en proposition de club ou sinon en cabaret, où là on accompagne des artistes, on programme un line-up. Et je mets beaucoup d'importance à l'idée de faire un show pour le public, pour que les gens se retrouvent et partagent un moment de fête. Le drag, c'est aussi ma façon de m'exprimer, parce que le verbal ne me correspond pas. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas les mots. Donc j'aime le côté cathartique de la scène. Il y a une grande différence. Dans la vie, si on me croise dans la rue, je suis dans ma bulle. Sur scène, je prends le temps de regarder les gens, je me connecte à eux, je suis en pleine conscience. C'est une mise à nu pour moi, mais je reçois aussi beaucoup de la part des gens. Certaines personnes disent que ça leur fait du bien. Me voir aussi libre, ça peut aussi leur donner envie de pousser leurs propres barrières. Je me suis jamais vraiment senti en danger par rapport à ce que je faisais, mais il y a un risque. Dans l'espace public, par exemple, comme lors des ateliers que j'organisais à Paris, en bande, on se sent insubmersible, mais on ne sait jamais. Dans la rue, quelqu'un aurait pu s'en prendre à nous, donc je garde une certaine méfiance vis-à-vis de l'espace public. Après, je pense que c'est plus de la pression qu'un sentiment réel de danger. Quand je performe dans un endroit où le public n'est pas habitué au drag king, notamment, je me demande surtout comment je vais pouvoir les cueillir, parce que des drag queens, on peut se dire qu'on en a vu à la télé, mais drag king, ça reste moins connu. Je prends beaucoup de plaisir à transmettre et à rencontrer de nouvelles personnes pour qui c'est la première fois. Quand j'ai commencé, il y avait peu d'ateliers. Je les organisais avec le peu de connaissances que j'avais, donc j'ai eu envie de continuer. En ce qui concerne la scène, pour le moment, j'ai fait beaucoup de choses avec le corps et j'ai appris récemment en fait le plaisir de chanter, ce qui me permet de proposer d'autres choses que la danse. Et il faut toujours se renouveler parce que j'ai pas du tout envie de me lasser ni lasser le public. La plupart du temps, mes performances ont un côté cathartique, justement. Il m'est arrivé ça, j'ai ressenti telle chose, voilà ce que je peux en faire. Donc c'est ma manière de répondre à ce qu'il s'est passé en utilisant mon corps. C'est un peu ma thérapie.
Bande sonore, c'est fini pour aujourd'hui, mais retrouvez cet épisode et d'autres encore sur bandeapart.info et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.